Zwei.
Coup sûr.
Il n'est pas parfait.
Dans le mid.
C'est l'homme de la situation, à ce qu'on m'a dit.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Radio. X.
Est-ce qu'on aurait besoin d'un ICE au Canada?
Oui.
Ben, t'as vu, là, Susanna Rocha-Cruz, le corps qui a été retrouvé dans le fleuve Saint-Laurent, là?
Oui.
Ben, elle a été tuée par un gars qui était recherché depuis 6 ans.
Wow!
Par les autorités fédérales. Il est en situation irrégulière depuis 6 ans au Canada. Et lui, il aurait dû être...
déporté.
Oui. Mais c'est du monde de même, là. Hey, c'est ça qu'ils font. Ils ramassent du monde de même, là. Pourquoi on n'a pas ça au Canada, une escouade de même?
Ouais, parce que, Pierre, on les laisse aller.
Ah, mais je sais que...
on n'a pas de contrôle d'immigration.
Il y en a combien des gars de même, là, je sais-tu?
Tu sais, au lieu de s'acharner sur des permis, des visas de longue durée ou des visas de travail, puis renvoyer des familles qui travaillent ici depuis 5
exactement.
Ans, dans leur pays, on devrait se concentrer sur du monde de même.
Mais c'est crotté là, là. Il l'a passé.
Je comprends qu'on a une capacité d'accueil, mais il y a des gens qui sont établis ici, qui travaillent, puis bon, au niveau des visas, ça a été trop long, trop compliqué, fait qu'on les renvoie chez eux. Pendant ce temps-là, il y a des crottés qui se promènent.
Il y en a combien des gars de même en cabale ou des filles, là, je sais pas?
Je sais pas. Mais autant pas le savoir.
Ben, moi, j'aimerais ça le savoir.
Moi, je comprends, Pierre, mais tu sais.
Non, mais tu vois-tu, là, on peut peut-être mettre les priorités à la bonne place?
Il faudrait, oui.
On y va.
Chronique politique avec Rodolphe Osney.
Rodolphe, comment vas-tu?
Bonjour Pierre, bonjour Nick, bonjour Québec.
Salut.
Je vais bien en ce vendredi. Merci de m'appeler pour parler un peu politique, même le vendredi.
Oui, ben là, je voulais faire appel à tes lumières, la CAQ. On a Carney aussi en Chine. Écoute, je ne sais pas où tu vas. Y a-t-il un sujet que tu veux débuter, la CAQ?
Bon, on peut commencer par la CAQ. Ouais. Allez, on va être au Québec avant de passer à l'international.
Bon, voilà, la CAQ. Bon, là, on commence à avoir des appuis. Christine Fréchette qui reçoit des appuis. Qui va y aller? Sonia Lebel? Est-ce qu'Éric Girard veut sauter dans l'arène? On n'a pas encore les détails. Hein? Et là, peut-être que ça va changer bien des affaires. Là.
Oui, c'est vraiment ça. La règle de base, normalement, c'est... avant de penser si tu vas y aller ou tu vas pas y aller, ben il faut savoir c'est quoi les règles, il faut savoir c'est quoi l'échéancier, le calendrier. Et pour l'instant, on ne sait pas combien de signatures ils vont avoir besoin, combien d'argent ils vont avoir besoin, ça va être quoi les plafonds aussi qu'ils pourront dépenser. Tout ça, c'est des détails super, super importants, la logistique d'une course. Mais ce qui a déjà commencé, puis ça c'est sûr que c'est arrivé à 11h01 lors de la démission de François Legault, c'est de s'assurer d'avoir les bons organisateurs, d'avoir les bonnes personnes, parce qu'une course à la chefferie, surtout une course qui va être, ce qu'on a, je pense, très rapide, ça veut dire on parle de peut-être 2 mois, ben il faut que tu t'assures que tu as les bonnes personnes. Mais le problème, c'est que la CAQ, ils n'en ont pas eu des courses à la chefferie, puis ça depuis un petit bout. Donc, on va voir comment ils vont être rouillés ou pas, s'ils ont l'expérience. Mais c'est vraiment ça la clé, c'est de trouver les bons organisateurs, les bonnes personnes. Souvent, on va se demander, hey, t'as-tu encore une liste de membres? T'as-tu la liste de tous les présidents d'association? Commencer déjà à se mettre sur le téléphone et surtout, s'assurer que qui est de quel bord, surtout dans le caucus.
Ben,
alors là, pour. Ouais, vas-y.
En plus, Rodolphe, c'est, ce que je comprends, c'est que la CAQ n'a même pas de règlement de course à la chefferie. On est en train de le faire là.
Exactement, exactement. Donc, le parti en train de regarder, ça va être quoi les règles, exactement comme tu viens de le dire, Nick? Et on va voir tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà une dynamique, là. Mais il y a une question que, moi, j'ai envie qu'on règle depuis le départ, parce que ça n'arrête pas de parler, là. On voit qu'il y a plusieurs noms qui se mettent, puis on sait que c'est Sonia Lebel, Christine Fréchette, peut-être Bernard Dravy, Geneviève Guilbeault, Simon Barrette, Éric Girard. Écoute, pour l'instant, là, s'il va avoir les règles, et quand il va avoir les règles, si tu es ministre, tu peux pas non plus être candidat à la course à la chefferie. T'imagines, ça va être quoi? Des ministres qui, en même temps...
Ah, ils font des annonces, ben oui.
Ben non, vrai. Donc c'est comme... Normalement, ça doit être la règle de base, puis ça, j'espère que la CAQ vont le dire en termes de... Écoute, si tu veux être ministre, si tu veux être candidat, ben tu dois quitter ton poste de ministre. Moi, en tout cas, à mon avis, ça devrait être la règle numéro un, parce que sinon, ben tu donnes un avantage à certains, etc. Puis même, et après, ils vont se faire épingler par le commissaire au conflit d'intérêts que tu as dépensé de l'argent des contribuables dans tes fonctions de ministre pour aller faire des événements partisans, etc. C'est tellement compliqué. Donc, je pense que c'est ça aussi qui va modifier toute la dynamique, parce que ça veut dire que remaniement ministériel pour, en tout cas, les ministres qui décideront de se porter candidat. Est-ce qu'il y en aura 2? Est-ce qu'il y en aura 3? Il y en aura 4? On verra ça dans les prochaines semaines.
Ouais, puis là, tu vois, Christine Fréchette, elle est en avance. Hier, il y avait une grosse annonce avec Bombardier. Une usine de 100 milliards, elle se promène là, puis elle, tout va bien. Là, je veux dire, elle distribue des chèques en plus. Donc,
oui, ben, c'est pour ça. C'est pour ça que ça va créer un problème dans les prochaines semaines s'il y en a qui se portent candidat et qui pensent qu'ils peuvent rester ministre. Comme tu viens de le dire, Christine Fréchette, c'est celle quand même qui a réussi à, qui a réussi à avoir son premier appui. Gilles Bélanger, le ministre de la cybersécurité, a déjà dit que lui, il supporterait la candidature de Christine Fréchette. Donc ça, c'est super intéressant. Éric Girard, pour l'instant, il a dit qu'il attend les règles. Simon Jolin-Barrette, la grosse question, est-ce qu'il va se lancer, est-ce qu'il ne va pas se lancer? C'est quand même une candidature qui est très intéressante. C'est quand même le père de la laïcité au Québec avec François Legault. C'est un peu aussi, on pourrait utiliser un peu un fils naturel de François Legault. Donc, ce sera très intéressant de voir si Simon Jolin-Barrette, celle qui a comme, ça va être compliqué si elle se présente, c'est notre amie Geneviève Guilbeault.
Bien là, parce que, elle vient d'avoir un blâme de la commission Galant, puis le rapport n'est pas encore déposé, imagines-tu? Déjà blâmé parce qu'il trouve que son témoignage n'était pas crédible du tout. Et là, imagine, ce rapport-là va sortir au mois de février. Là.
Exactement. Donc, d'un côté, tu dois te demander, tiens, c'est bizarre que cette information sur Geneviève Guilbeault, elle est sortie hier, comme par hasard qu'il y aurait un blâme sur son témoignage à la commission Galant. Tu te dis, oh, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut la neutraliser à Geneviève Guilbeault, puis tu mets le doigt sur le bobo. Si Geneviève Guilbeault y va, en février, c'est sûr qu'on est en pleine course à la chefferie et qu'il y aura le rapport Galant qui va sortir où elle va être blâmée. Donc, c'est sûr que ça doit peut-être faire réfléchir Geneviève Guilbeault. Il y en a une autre qu'on va voir, ça va être intéressant aussi. Ça va être, est-ce que Sonia Lebel va y aller? Parce que, tu sais, Geneviève Guilbeault, moi, je pense qu'elle a un désavantage aussi. C'est que, est-ce que c'est vraiment une joueuse d'équipe, Geneviève Guilbeault? Tu sais, dans le passé,
voilà.
Ben, c'est ça. Tu sais, normalement, quand tu dois appeler tes collègues puis tu dois leur dire, « Hey, est-ce que tu veux me supporter? Est-ce que tu traînes mon bord? » Si tu n'as pas été trop joueuse d'équipe dans le passé, ben ils vont peut-être dire merci, mais non merci. Et peut-être qu'une Sonia Lebel ou même une Christine Fréchette arrivera à plus avoir le soutien du caucus. Donc là, c'est intéressant parce que tes années en politique, ben c'est là qu'ils payent ou ils ne payent pas, dépendamment de quel genre de relation ou de solidarité tu as eu avec beaucoup de tes collègues lorsque tu étais ministre. Si tu les as un peu ignorés parce que toi, tu étais ministre, ben, c'est peut-être le moment où ils vont peut-être ignorer ton appel.
Ouais, Mathieu Lacombe a aussi eu des très bons mots pour Christine Fréchette. Là.
Exactement. Donc là, c'est pour ça.
On commence à cristalliser peut-être des appuis. Et les outsiders, là on parle de Mario Dumont, lui, il dit non, moi, je suis bien, là, je suis à TVA, tout va bien. Olivier Primo, est-ce que Gérard Deltel, tu sais, on peut peut-être voir. On me dit que avant les fêtes, il y avait un comité à Montréal qui avait été formé autour de la CAQ. On faisait des approches. On a fait des approches à des personnalités. On dit même qu'il y a eu des focus group qui auraient pu être faits avec des gens pour savoir qui pourrait être un chef éventuel pour la CAQ. Donc, il y a quand même des signaux qu'on se préparait. Hein? Si Legault décidait qu'il ne se représentait pas, ben on voulait pas être pris de court.
Oui, non, ben écoute, c'est toujours comme ça. Pierre, ça fait depuis le mois de juin, depuis le mois de juillet qu'on se dit, bon, quand est-ce que François Legault il va partir? Ouais. Si nous, on y a pensé, certainement que d'autres personnes y ont pensé. Est-ce qu'il y aura un candidat de l'externe? Ça va être aussi une question intéressante. Est-ce que même Bernard Drinville, on n'a pas encore parlé de son nom, pour l'instant, il a dit qu'il n'était pas là, mais est-ce que Bernard Drinville voudra aussi se lancer dans la course? Pour l'instant, c'est un inconnu. Guy Cormier, celui, le nom qui a super beaucoup circulé pour le PLQ, ben lui, il avait dit la semaine dernière, non, j'y vais pas. Donc, c'était avant la démission de François Legault, ouais. Mais c'est pour ça que ça va être intéressant. Est-ce que ce sera que des candidatures de ministres? Ou est-ce qu'il y aura un outsider? Combien de débats il va avoir? Ça, c'est toujours une question très intéressante. Mm-hmm. Et surtout, quel genre de programme ils vont mettre de l'avant? Parce que, tu sais, des fois, il faut un peu tuer le père dans un parti. On l'a vu un tout petit peu avec M. Carney, qui s'est complètement, désavoué de Justin Trudeau.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des candidats anciennement ministres? Ça va être difficile de dire, écoute, j'étais ministre, mais moi, j'aurais fait ça différemment. Et quel genre de distance ils vont vouloir prendre avec François Legault? Ça va être très intéressant, cette course à la chefferie. Chose parce qu'il ne faut pas oublier, la personne qui gagne devient directement premier ministre du Québec et ça jusqu'à l'élection.
Ah oui, il y a les clés, là.
Mais est-ce qu'un futur candidat qui est présentement membre, un député ou même un ministre de la CAQ peut vraiment faire une différence et se détacher de tout le legs de François Legault? Est-ce que ça peut permettre de remonter le parti, selon toi? Moi, j'ai un doute. Je pense que ça va prendre quelqu'un de l'extérieur.
Il est à 11 %. Il est à égalité avec QS, là.
Mais moi, ce que je dis, c'est que le paysage politique vient complètement de changer. Tu sais, la démission de M. Legault, c'était pas une bonne nouvelle pour le Parti libéral du Québec. C'était surtout pas une bonne nouvelle pour Paul Saint-Pierre Plamondon et le PQ.
Exact.
Souviens-toi, Pierre Poilievre, 15 points d'avance, c'était gagné, c'était dans la poche, il allait être premier ministre, il avait déjà mesuré les rideaux dans son bureau. Mark Carney arrive, toute la dynamique change. Est-ce que la CAQ va réussir à faire ça? Je ne sais pas. Ce qui va être intéressant, Pierre, c'est de regarder dans les prochaines semaines, les prochains mois, combien de votes avaient été parqués au Parti libéral du Québec, combien de votes étaient parqués au PQ parce qu'ils n'aimaient pas François Legault, parce qu'ils voulaient du changement.
Exact.
C'est pour ça que maintenant, c'est toute une dynamique. Éric Duhem aussi, peut-être que s'il est monté à 16%, est-ce qu'il est monté à 16% aussi parce qu'il y a des votes qui ont été parqués? Ça va être très intéressant de voir la dynamique.
Et voir qui va être le chef aussi, parce que là, tu amènes Drainville, tu amènes Sonia Lebel, ça peut changer bien des opinions. Ça va être vraiment intéressant. Puis l'autre chose, là, tu es à
11%. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, il n'y a plus l'air du chef. Il peut, tu sais, le chef frais, nouveau, jeune, là. La moyenne d'âge, elle vient de faire une drop dépendamment de qui va être choisi à la CAQ, parce qu'avant, c'était facile de taper sur M. Legault, vous êtes usé, etc., vous êtes l'homme du passé. Mais là, maintenant, si c'est un nouveau chef, on vient de baisser la moyenne d'âge, puis surtout, c'est lui qui va avoir, je pense, le plus d'expérience au futur débat des chefs.
Et je réitère, moi, ma prédiction. J'avais dit que Legault partirait, je l'ai eu, là, j'ai gagné mon pari avec Nick.
Moi,
je te le dis, Rodolphe, on s'en va vers un gouvernement minoritaire, et ça va être le PQ qui va être au pouvoir, mais minoritaire en 2026, au mois d'octobre. Retenez ça.
Moi, je suis d'accord avec toi en termes que là, c'est plus rien n'est assuré, puis ça peut aller dans toutes les directions, parce que c'est plus comme avant où on se disait, bon, OK, François Legault, les gens, ils ne l'écoutent plus. Peut-être que la prochaine personne, maintenant, ça vient de changer, rechanger toute la dynamique.
Oui, puis la dynamique de l'indépendance, parce que là, le PQ, c'est un vote pour la souveraineté, là, un référendum. Oui. Et ça, il y a des gens qui ne veulent pas aller là. La majorité des Québécois ne veulent pas aller là. Donc là, ça, on va taper sur le clou et ça va faire descendre le PQ éventuellement.
On verra.
Carney s'en va à Pékin, débarque en Chine. On a un accord de libre-échange. Un accord sur le commerce, notamment le canola, le crabe canadien, le homard, les petits pois. Puis en même temps, on leur donne 2,5% du marché canadien pour des voitures électriques chinoises. Qu'est-ce que tu en penses?
Je suis très sceptique. Pierre, parce que le premier ministre a utilisé le mot « il faut avoir une approche pragmatique ». Moi, je me demande si son pragmatisme n'est pas très proche de la naïveté. Parce que, écoute, je comprends qu'on doit se diversifier des États-Unis, puis je suis tout à fait d'accord, mais entre les États-Unis puis aller avec la Chine, moi, je pense qu'il y a quand même un monde entre les deux. Je suis très surpris du fait qu'on avait des tarifs sur les voitures électriques qui étaient à 100%, qui vont tomber à 6%.
Ouais.
Et ça va, s'il y en a un qui ne va pas être content, bien évidemment, c'est celui à côté de la frontière, notre ami Donald Trump. Puis surtout, je trouve que par rapport à l'Europe, qui a à peu près 30% de tarifs sur les voitures électriques, même le Mexique, qui a 50% de tarifs à peu près sur les voitures électriques, tu sais, le Canada, on est en plus bas que l'Europe, par exemple, ou le Mexique. Donc, c'est ça que je me dis. Je me demande si on n'en a pas donné beaucoup pour quelque chose que, oui, le canola a baissé, mais le canola, il va rester quand même un tarif de 15%. Donc, j'ai l'impression qu'on a donné beaucoup. Est-ce qu'on a reçu beaucoup en retour? Et est-ce qu'on ne va pas se faire beaucoup attaquer par les États-Unis? Ça peut changer toute la dynamique pour la renégociation avec la CO. Moi, je me serais attendu que, oui, il y a une baisse des tarifs. Tout le monde s'y attendait. Mais de passer de 100% à 6%, moi, je me disais, on n'a pas un entre-deux ou même par étapes dans un contexte comme ça. Donc, disons que je ne sais pas si le pragmatisme de M. Carney, ce n'est pas plus de la naïveté. Il faut se souvenir que la Chine, là, sur certains éléments, ils se comparent pire que les Américains en termes de, des fois, mettre comme ça des tarifs sur certains éléments, de réagir, de bloquer des choses. Et n'oublions pas, la Chine n'est pas un partenaire économique fiable, que ce soit sur l'espionnage, que ce soit sur l'ingérence étrangère qu'on a vécue dans le passé, sur le fait que certaines technologies, etc. Écoute, c'est pas pour rien qu'au Canada, il y a à peine 2 ans, on a dit « Hey, on veut plus de Huawei, vous faites pas de partenariat de recherche avec la Chine, etc., etc. » Donc, c'est pour ça que je me suis dit, entre les États-Unis et la Chine, je me demandais si on n'a pas d'autres pays qu'on aurait pu avoir plus de liens économiques que de donner comme ça beaucoup à la Chine. Je ne sais pas si on en aura en retour ou même si cet accord sera respecté.
Ouais, on parle quand même de tarifs de 6,1% sur 49 000 véhicules, dont le prix sera inférieur à 35 000 $.
Oui.
Donc, les chars, je ne sais pas si tu as vu, la facture moyenne actuelle est de 63 000 $. On passe à des voitures de 35 000. Est-ce que c'est des voitures fiables? Est-ce qu'il va y avoir des usines au Canada? Est-ce qu'il va y avoir des programmes d'investissement chinois? Ça aussi, là, le diable est dans le détail, comme on dit. Doug Ford n'est pas content.
C'est sûr que Doug Ford n'est pas content. Puis c'est sûr aussi que tout ça, là, c'était pas quelque chose qu'on avait prévu. Il y a des clips qui n'arrêtent pas de circuler. Pendant le débat des chefs de M. Carney, on lui a demandé c'est quoi le plus gros risque à la sécurité nationale du Canada. Qu'est-ce qu'il a répondu? La Chine. Donc c'est intéressant que d'un côté, il nous dit « Vous inquiétez pas, je veux faire un accord avec Donald Trump. » Il n'y en a pas fait. Puis il nous avait dit « Il y a de l'empreinte de sécurité avec la Chine. » Puis là, maintenant, il signe un accord avec la Chine. Donc c'est pour ça que je suis très sceptique et je me demande encore une fois si on n'est pas un peu trop naïf. Moi, dans le passé, avec les contacts que j'avais avec la Chine, je disais toujours, il faut avoir les yeux grands ouverts, il faut faire affaire avec la Chine, oui, mais comme je dis, avec les yeux grands ouverts et en sachant que ce n'est pas non plus un partenaire fiable avec une relation de confiance ou même de réciprocité.
Et le port canadien n'est pas impliqué là-dedans?
Non, non, non,
c'est pour ça. Le port québécois, beaucoup, là?
Oui. Donc, non, c'est pour ça que je te dis, c'est pas, il revient pas les mains vides, ça c'est certain. C'est sûr que c'est une bonne nouvelle pour la Saskatchewan. D'ailleurs, le premier ministre était avec lui et il a applaudi. Mais c'est pas une bonne nouvelle, en tout cas pour l'Ontario. On va voir aussi comment ça va être. Est-ce qu'il y a vraiment des investissements chinois au Canada dans l'automobile à suivre? C'est sûr que, bon, 50 000 voitures, on peut se dire, c'est pas beaucoup. Peut-être que oui, ça va donner comme ça un coup de pouce à certaines personnes qui peuvent acheter des voitures électriques chinoises à un prix plus faible.
Oui, mais c'est des bonnes voitures dans le climat. C'est ça, il fait froid ici, là. Il fait moins 20. Là. Je veux dire, hier, il faisait zéro. Là. C'est des voitures qui sont capables de prendre la chaleur et le froid, là, je ne sais pas. Je ne connais pas leurs produits. On me dit que ça va bien quand il fait chaud. En Californie, tout va bien. Hein? C'est merveilleux. Là. Mais là, en tout cas, regarde, on verra. Et l'autre chose, souviens-toi des Coréens aussi, là, Hyundai, les premières voitures qu'ils ont fait au Canada, au Québec, les poneys, là, c'était pas fiable trop. Là, ils sont devenus très fiables avec le temps. Là.
Oui, non, c'est pour ça. Je pense que, écoute, c'est pour ça que je me dis, je regarde ça, je suis très sceptique en me disant, est-ce que c'était vraiment la bonne décision? Non. Je regarde ce qui va se passer avec les États-Unis et je me dis, c'est difficile après de justifier. C'est, l'Europe continue à avoir des tarifs sur les voitures. Pourquoi? Parce qu'ils disent, vous faites du dumping. Pourquoi? Parce que vous subventionnez. C'est parce que vous respectez pas les règles.
Ah, c'est même des gens full subventionnés, ça, en Chine, là.
Ben c'est exactement ça. Donc, est-ce qu'on est en train aussi de pas respecter l'accord de libre-échange nord-américain? C'est aussi une question que je me pose et j'attends de voir quelle va être la réaction des États-Unis. Est-ce que ça a été vraiment un avantage? Je ne sais pas pour l'instant, mais j'ai des très sérieux doutes.
Deux choses. Carney a parlé d'un nouvel ordre mondial. Bon, peut-être dans sa tête, je ne sais pas. Autre chose, faut pas oublier que Trump va débarquer en Chine dans 2 mois. Lui, il y a un voyage de prévu avec Xi Jinping, un sommet États-Unis-Chine où on doit ratifier des ententes sur le commerce international et sur le commerce entre les États-Unis et la Chine. Donc, peut-être que c'est annonciateur, peut-être d'un autre ronde là, tu sais, à l'échelle mondiale où là, Trump va vouloir capitaliser aussi avec la Chine. Et ça semble pas très relax, eux autres. Là. Ça coûte 15 puis 20 puis 25 % de droits sur plein de produits. Donc, peut-être qu'on le Canada a ouvert une porte pour éventuellement les Américains. Peut-être, là, on extrapole.
Oui, mais oublie pas que la Chine continue à faire, par exemple, des affaires avec l'Iran, qu'ils achètent du pétrole de l'Iran, qu'ils sont partenaires aussi avec la Russie sur certains éléments. Donc, tu vois que la Chine non plus ne joue pas le jeu, que ce soit de l'Occident. Et c'est pour ça aussi que ça crée. Et puis juste sur les technologies, l'espionnage, écoute, on oublie quand même qu'on a eu de l'ingérence étrangère de la Chine au Canada. On a quand même eu 2 otages canadiens. La Chine ne reconnaît pas plus l'Arctique canadien, la souveraineté canadienne. Combien de fois, il y a des avions chinois qui frôlent des avions canadiens, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est véritablement un partenaire de confiance? Je te dis que non. On va voir le pari de M. Carney avec sa relation avec la Chine. Est-ce qu'on devait refaire un bouton 8-7 avec la Chine?
Oui.
Oui. Est-ce que moi j'appelle ça la politique étrangère de chaussettes colorées du Justin Trudeau, c'était un désastre? Oui. Mais est-ce qu'on est un peu trop naïf, M. Carney, envers la Chine? Je pense que oui. Oui.
Ben, ça sera à suivre. Écoute, on parle d'un an. Hein? C'est un deal d'un an. Là. Alors, ça laisse peut-être place à des investissements, peut-être aussi à des signés avec... Ben là, si les Américains ne voulaient pas... Parce que là, Trump a dit, j'en veux plus de vos chars. J'en veux plus de la SUM, la CEUM.
Oui, la CEUM.
Bon, ben là, à un moment donné, ils t'envoient des signaux contraires. Puis là, tu dis, ben là, finalement, Mélanie Joly dit, c'est plus facile de parler avec les Chinois qu'avec les Américains. C'est pas normal?
Oui, celle-là, je suis à moitié d'accord. Mais écoute, encore une fois, On va voir ce qui va se passer. C'est quand même un gros pari qu'il a pris.
Rodolphe, toujours intéressant, tu es salué. Bon week-end.
Merci, bon week-end.
Salut, bye, bon week-end.
C'est vrai, danser avec les Chinois, danser avec les Américains. Mais c'est parce que là, Trump, il dit aux Canadiens...
Oui, mais il reste 2 ans et demi à Trump aussi, là.
Ça fait un an seulement qu'il est là. Il reste 3 ans.
3 ans, ah oui, c'est vrai.
Puis là, il y a des élections de mi-mandat, là.
Oui, ça fait un an, t'as raison. Oui, c'est ça, il arrive au mid-turn.
Au mois d'octobre?
Ça peut tout peut changer, là.
Ah, il va s'en passer des affaires au mois d'octobre.
Fait que c'est pour ça, est-ce que...
Les élections au Québec?
Je comprends là, que pour l'Ouest canadien, puis l'agriculture, puis le canola, fallait arriver à une espèce d'entente. Est-ce que c'est ça qu'on a voulu faire pour sauver l'agriculture? Parce que ça allait mal. Ça allait très mal.
À court terme. Mais c'est parce que Trudeau a tout bousillé, là.
Oui.
Il est allé, je sais pas si tu as vu, c'est un ancien diplomate canadien, M. Saint-Jacques, qui disait quand Trudeau s'est pogné avec Xi Jinping, il parlait comme si c'était un enfant d'école. Il parlait, mon père vous a aidé, puis si je peux faire de quoi pour vous. Il leur parlait comme des enfants de 2 ans. Trudeau, au niveau diplomatique, c'est zéro, là. Ça a été un gros...
C'est un désastre.
C'est un prof de théâtre, ça, hein, Trudeau?
C'est ça.
Ben, c'est ça. C'est ça que ça donne.
Mais c'est pas grave, il y aura des chars chinois, Pierre.
Ouais, chars chinois. Moi, j'en prends, puis j'en laisse, là. Ben voyons, c'est des chars à 35 000 $. On va voir, là.
Moi, je suis persuadé qu'il y aura un marché pour des véhicules chinois, mettons, qui sont abordables.
Il y a des manufacturiers qui sont ici depuis 50 ans, 60 ans au Canada. Ils font des voitures. Ils vont peut-être faire baisser les prix aussi. Peut-être ça.
Marc Bouchard dans Montréal-Live dit les champs chinois très, très, très fiables.
Oui, mais ils ont essayé dans la neige à moins 20.
Tu parles avec Carbo, c'est de la cochonnerie.
Ben, c'est ça.
Fait que là, on a 2 poids, 2 mesures.
Non, mais moi, je veux dire, ça va être à l'usure, là.
Je sais pas.
D'ailleurs, on ouvre les lignes là-dessus.
Ouais, 88-670-9098, ça vous fait énormément réagir, la voiture chinoise. Serez-vous un client?
Ben, à 35 000 $.
Ouais, mettons, là, pour deuxième char, se promener en ville.
Mais si, mettons, il part pas à moins 20, c'est une scrap?
Ben, je sais pas, moi, est-ce que vous seriez acheteur de ce véhicule? Mettons, un deuxième véhicule, là.
Ouais.
Tu sais, là.
Pas usagé, là. Pas un char à gaz, là. Un char électrique chinois à 35 000 $.
Ouais.
Ça va être plus une fascination, selon moi.
Je sais pas. En tout cas, bref, les lignes se remplissent. 88-670-9098.
On revient après la pause.
Couture dans le mid. Radio X.